Un midi qui va vite, et nous, on voyage. On voyage à la station. On va à Winnipeg, si je me trompe pas. Louis Gauthier, chroniqueur international. Bonjour, Winnipeg!
Bonjour, Québec!
Comment ça va, mon ami?
Ça va bien, ça va bien.
Ouais, ça brasse dans ton coin?
Ça brasse?
Ouais.
Dans quel sens?
Ben, tu travailles fort.
Travaille très fort, puis j'ai mis la radio sous tutelle la semaine passée.
Ah ouais, bon.
Le gouvernement s'en mêle, j'ai fini mon mandat.
T'as fini ton mandat, tu reviens-tu à Québec?
Ben là, je vais aller faire un tour à Québec parce que je suis en train de partir une radio digitale ici, okay. À la demande des Gold Eyes de Winnipeg, c'est moi le propriétaire.
Ah ouais!
Via mon entreprise.
Plein de projets encore, Louis Gauthier.
Et toujours, en plus de ça, aux douanières.
En plus?
Pour aller régler des problèmes de douane ici à la frontière avec le Dakota du Nord.
Ouais, j'ai passé les douanes côtières, j'ai passé les douanes américaines dans les derniers jours. Puis ça m'a surpris de voir à quel point la vitesse s'est améliorée. Ça faisait un bail que j'avais été aux States, pour être très honnête avec toi, là. Puis aux douanes américaines que j'ai passées à Montréal, il fallait que je me fasse dédouaner à Montréal, ils ont pris une photo de moi. Puis ils ont rentré ça dans leur ordinateur. Puis quand j'étais à Porto Rico, pour ce qui est des douanes côtières, quand je suis revenu avec le bateau, je suis passé devant le lecteur de face, là, et en une milliseconde, code vert, c'est beau, tu peux passer. Le douanier ne m'a pratiquement pas parlé. Je trouve ça exceptionnel, la technologie. Au niveau de la sécurité, là, ça s'est grandement amélioré.
Mais ce qui est surprenant là-dedans, c'est que tu as laissé passer.
Ouais, mais j'avais prévu la chose, j'avais choisi le douanier avec les moins gros doigts, Louis.
Oui? Ah, OK. c'est bien. Mais tu as fait la même croisière que j'ai fait l'an dernier.
Ouais, non, c'était un super de beau trip, mais la sécurité aux frontières s'est grandement améliorée, du moins du côté de nos Américains. Au Canada, c'est tu ramènes-tu de l'alcool, tu ramènes-tu des cigarettes, puis c'est tout.
Ben oui, parce que c'est sûr, hein, il faut rembourser les dettes de M. Trudeau.
Exact, exact. Comment ça se passe, la politique américaine? Comment va notre bon vieux Donald Trump?
Bien, écoute, Donald Trump, comme je l'avais déjà dit auparavant, c'est la Cour suprême des États-Unis qui va nettoyer le dossier juridique de l'ancien président américain. Là, une autre question qu'on parle beaucoup dans les médias, c'est qu'on est en train de penser qu'il n'y aura pas de débats nationaux, parce que je parle des débats nationaux entre Trump et Biden, parce qu'on a trop peur des problèmes cognitifs du président Biden et on commence déjà à en parler beaucoup dans les médias. D'ailleurs, le bureau de presse de la Maison-Blanche est constamment questionné sur le sujet.
Mais Louis, c'est un constat d'échec là, de ne pas présenter plus souvent que ça Joe Biden. T'sais, on considère que c'est la meilleure personne pour battre Donald Trump, mais en même temps, on considère qu'il est en fin de vie, qu'on ne sait pas trop comment ça va se passer. T'sais, c'est un peu irresponsable de la part de son équipe de le laisser en place.
Mais je vais vous poser une question autrement. Si Donald Trump avait remporté une deuxième élection consécutive il y a 3 ans et demi, pensez-vous qu'aujourd'hui, Joe Biden se présenterait pour les démocrates aux tickets présidentielles des démocrates pour 2024?
Ben non.
La réponse est non, parce qu'il n'y a pas de critères de santé pour le faire. Puis, en même temps, on se serait débarrassé de Donald Trump une fois pour toutes, parce qu'il aurait fait ses deux mandats. Donc, on aurait eu deux candidats vraiment nouveaux de la nouvelle génération de la candidature présidentielle qui se pointe à l'horizon aux États-Unis. Puis, on ne parlera pas de Biden, puis on ne parlera pas de Trump aujourd'hui.
Mais il y a un acharnement sur Trump. On fait tout en notre pouvoir pour essayer de l'empêcher de se présenter aux prochaines élections. Lui, il semble faire fi de ça. Il se présente ou il ne se présente pas devant la justice. Bien, on dirait qu'ils font tout pour lui mettre des bâtons dans les roues. Y a-t-il quelque chose qui peut l'empêcher de se présenter?
Absolument.
Ils vont-tu trouver quelque chose?
Ce qui pourrait l'arrêter, ce serait la Cour suprême concernant la perte devant une cour d'appel fédérale cette semaine, où on le reconnaît responsable des émeutes du 6 janvier. Donc, ça, c'est une chose. Si la Cour suprême se prononçait en faveur donc rejetait sa demande devant la Cour suprême, bien là, ça, les carottes sont cuites dans son cas. Ça n'arrivera pas parce que sur les 9 juges, il y en a 6 qui sont républicains, conservateurs, autrement dit. Donc, on sait que ça va se terminer là une fois pour toutes, puis ça va défendre. Ce qu'on voit sur le terrain, bien, on le voit au Nevada. Le Nevada, Donald Trump ne sera pas sur les bulletins de vote des primaires du Nevada. C'est seulement le bureau républicain du Nevada qui va tenir un vote séparé, parce que ça, c'est très rare que ça arrive. On va suivre la tendance nationale de tenir des primaires par les instances nationales du parti, mais le parti, ce que je vais appeler l'Association républicaine du Nevada, a décidé d'en tenir à part, et c'est pour ça qu'on ne verra pas Donald Trump sur l'étiquette du Nevada. On commence à voir ça. Maintenant, au niveau national, sur les 50 États, Donald Trump mène sur 26 des 50 États ce matin. Puis si on avait des élections, il détient jusqu'à maintenant 230 des 270 votes du collège électoral nécessaires pour avoir la majorité. Donc, il n'est pas loin de la majorité.
Ça, c'est sur les 500... quand on inclut les grands électeurs et tout ça?
Oui. Tu as bien beau avoir les électeurs. Quand tu gagnes un État, parce que ça, je vais l'expliquer une autre fois, là, mais quand tu gagnes un État, exemple, si je prends, je ne sais pas, là, je lis ici les États, tu vas prendre un État comme le Wisconsin qui aurait 4 sièges. Donc, c'est 4 sièges du vote électoral. Donc, si tu remportes la majorité des votes dans cet État-là, que ce soit Biden ou Trump, mais il remporte les 4 sièges du collège électoral. Donc, tu en as 538 comme ça, comme la Floride, la Californie, ça en est des gros, l'État de New York également. Donc, là, il détient, compte tenu de l'avance qu'il a dans les États, 230 des 270. Si jamais, parce que là, on se pose la question, ça se pourrait qu'on n'atteigne pas la majorité cette année requise, la majorité simple, 270. Donc, on se dirigerait vers un vote de contingence. Le vote de contingence, le président s'est décidé par un vote tenu à la Chambre des représentants. Puis le vice-président, ce vote de contingence-là, pour le nommer, et c'est fait par le Sénat. Donc, on risque de se retrouver devant une situation très particulière qui s'est vue, je pense, une ou deux fois dans l'histoire américaine, principalement au début là, de la Constitution américaine. Alors, vous voyez que c'est très serré. Puis, imaginez si Donald Trump n'avait aucun problème avec la justice, ça serait une razzia dans son cas. Mm-hmm. Parce qu'il réussit à se carrer de cette façon-là, avec tous les problèmes juridiques qu'il a sur les épaules jusqu'à l'élection.
Louis, hier, en parlant de la justice et Donald Trump, hier, il y a une cour d'appel fédérale américaine qui a statué que Trump peut être jugé pour avoir comploté les élections présidentielles de 2020. C'est un dossier qui est là depuis très longtemps. Oui. Louis, il va s'en sortir? Il va-tu s'en sortir?
Ben oui, parce que ça va aller en appel, en cour fédérale d'appel. Donc, en cour fédérale, c'est-à-dire en la Cour suprême des États-Unis va se prononcer ouais. là-dessus. Puis la Cour suprême, elle est majoritairement conservatrice. Alors, je le dis depuis le début, peu importe la cause qu'il va perdre dans des instances inférieures à la Cour suprême, il va toutes les gagner parce qu'il les amène toutes en Cour suprême.
Puis, dans le cas où il y a une déclaration de culpabilité là, de la part d'un juge, est-ce qu'il peut se gracier?
Non, il peut pas... Bien, premièrement, pour devenir président, il faudrait que s'il devient président, c'est parce que la Cour suprême des États-Unis va le laver de toute accusation.
Oui, c'est ça.
OK? S'il y avait d'autres accusations qui avaient eu lieu pendant on va dire, sa traversée du désert des 4 dernières années, bien oui, il pourrait se gracier parce que le président a le droit de faire ça. Alors, il peut décider de se gracier, ça ne se serait jamais vu, mais il pourrait le faire. Par contre, ça ne sera pas nécessaire parce que la Cour suprême peut décider de laver toutes les accusations qui ont eu lieu. Ça peut être un paquet de problèmes qui est déposé devant la Cour suprême qui décide de statuer sur le lot. C'est ce qui va arriver. Par contre, s'il est reconnu coupable devant la Cour suprême des États-Unis, bien, les Républicains vont devoir se trouver un autre candidat parce qu'il ne pourra pas se présenter.
Puis j'écoutais un débat à Radio-Canada pour ne pas les nommer. Je pense que c'est là deux semaines, c'était durant la fin de semaine, deux personnes qui semblait être plus du côté de Trump, l'autre qui pensait, qui me laissait présager, qui était un peu plus du côté de Biden. Puis ils ont parlé de bilan. Ça a été quoi le bilan de l'ère Trump versus le bilan de l'ère Biden? Puis, le pro-Biden ne semblait pas être capable de donner un bilan bilan extrêmement précis de ce qu'a fait le président pendant son mandat. Puis celui qui était du côté de Trump parlait, bon, c'est un président qui déteste les guerres. Au niveau économique, ça a bien été. Il y avait quand même un petit bilan. Et à un moment donné, celui qui était pro-Biden avait dit, « Oui, mais voulez-vous vraiment Donald Trump qui sort dans les médias en criant après tout le monde, en disant ci, en disant ça, versus un gars comme Joe Biden qui est présentable? » Puis là, j'ai eu comme réflexion dans ma voiture, t'as peu, là, c'est parce que faut, quand on regarde quelqu'un, faut surtout regarder ce qu'il fait et non nécessairement ce qu'il dit. Tu sais, oui. Biden peut dire n'importe quoi, tant que c'est poli, tant que ça sort bien, mais diriger pendant 4 ans, rien faire, versus un Trump qui dit des fois n'importe quoi, mais qui, sur le terrain, réussit à améliorer les choses. Moi, j'aime mieux voir quelqu'un qui fait les choses, puis qui parle peut-être un peu de travers, versus quelqu'un qui parle super bien, mais qui fait absolument rien. Vous voulez quoi comme président? Quelqu'un qui fait ou quelqu'un qui dit?
Bien, ce qui est important pour l'Américain moyen, Yannick, c'est de voir le coût de l'essence qu'il met dans son auto. Qu'est-ce que ça coûte le coût de la vie? Autrement dit, quand tu recules dans les années Trump, le prix à la pompe au gallon, c'était quoi? À peine 2,15 $, 2,25 $. Aussitôt que Biden est arrivé, on a joué dans du 4 puis dans du 5 $ le gallon aux États-Unis. Puis là, ben, on met ça sur le dos de la pandémie, on met ça sur le dos de ben des affaires, mais veut pas. L'inflation en a mangé pour son rhume à ce moment-là. Comment de taux que j'ai vu aux États-Unis laissés sur le bord de la route, soit parce qu'elle est tombée en rack pour une panne d'essence ou une panne mécanique, puis on ne les ramasse pas parce que ça coûte plus cher, les gens abandonnaient leur véhicule. Il y en a qui ont vendu leur maison, qui se sont achetés des roulottes. On a vu ça dans le Midwest américain. Donc, tu avais un paquet de camping provisé où les gens avaient des roulottes, puis ils mettaient ça en saisonnier, puis ils vivaient là-dedans.
2008 Alors, est encore très frais dans la tête des Américains, hein, tout ce qui s'est passé et autres. Puis ça avait permis à Donald Trump, moi j'avais voyagé beaucoup aux États-Unis quelques années après, quand Donald Trump commençait à parler d'une possible candidature au début d'un premier mandat qu'il y a eu finalement. Puis ce que les gens disaient, c'était pas nécessairement d'aimer l'homme, mais plutôt la portion financière, la portion économique, parce que dans leur sang, il y avait un énorme traumatisme de communauté et de société par rapport à tout ce qui est arrivé en 2008, là.
Mais oui, effectivement, parce qu'écoute, 2008, c'était la confiance perdue envers le système bancaire américain.
Mm-hmm. Ouais.
Tout de suite en partant, écoute, les hypothèques blue chip qu'il y a eu, on prêtait sur des maisons 135%, 140% de la valeur réelle de la maison. Moi, premièrement, je ne comprends pas comment que quelqu'un peut penser que sa maison vaut plus cher qu'un prix, tu sais, que 100%, tu sais, tu peux pas gagner une valeur.
On voit que tu magasines pas, Louis, souvent sur Marketplace.
Oui, bien ça, j'achète pas une maison sur Marketplace. Mais oui, ça, tu le vois, puis Marketplace et toutes ces choses-là, ça a connu vraiment un gros boom pendant la pandémie.
Ouais.
Parce que là, ça a créé une rareté, on n'était plus capable d'aller magasiner, il y avait une rareté des livraisons dans les magasins. On sait ce qu'on se souvient, là, tu sais, on faisait la file devant Walmart. Donc, ça a créé, puis ça a continué. Mais on voit que ça s'effrite quand même, parce que tu as bien beau mettre un prix sur Marketplace, mais je t'annonce que ça baisse vite, ben, ouais, ça reste plus longtemps sur le marché.
Mais mon point, c'est que quand tu fais une analyse de tes propres avoirs, exemple la maison familiale, tu sais, c'est ton cœur qui est dans cette maison familiale-là. Fait que tu comprends que tu l'évalues, cette maison-là, elle vaut plus cher parce que c'est ta maison familiale. Mais pour le gars qui veut l'acheter ou la fille qui veut l'acheter, elle voit un meuble, là. Elle voit une maison, puis elle se dit, OK, mm-hmm, ben, je regarde les maisons autour qui sont semblables, ça vaut 400 000, mais toi, parce que c'est ta maison familiale, t'as élevé tes enfants là-dedans, c'est significatif, hey, ça vaut au moins 550.
Bien, les émotions là-dedans, Yannick, j'en prends pas zéro compte. Quand t'es en affaires, tu te bases pas sur les émotions.
Exact.
Mais moi, je vais te dire, c'était quoi le problème? Il y a un paquet de monde qui a acheté des maisons hors prix pendant, ouais, la pandémie. Puis là, bien, ils essayent de les revendre parce que là, l'hypothèque de renouvellement de 3 ans, 5 ans s'en vient. Puis ils sont pas capables de revendre ça. Puis ils vont vendre ça break-even point au prix qu'ils ont vendu s'ils sont chanceux. Puis là, ils essayent beaucoup de vendre par des directs du proprio de ce monde. Puis même les courtiers immobiliers ont commencé à baisser leurs commissions. Parce qu'ils savent très, très bien que quand on promettait dans le temps, ben, je vais vendre ta maison, mais je vais rajouter ma commission dessus un peu plus élevée, puis on va négocier sa commission en vendant, ça ne se fait plus, ça, là. Ça ne se fait plus. Donc, on se retrouve, puis c'est pour ça que les gens, c'est plus une question d'émotion, là. C'est une question que on risque de finir déficitaire après vendre la maison, puis on va être pogné pour faire faillite. Ah, ben, une proposition du consommateur, on est rendu là, là présentement.
Ouais, question d'un auditeur sur le bateau qui voulait que je te pose cette question-là. Il peut-tu arriver quelque chose qui ferait en sorte que Donald Trump ne serait pas l'élu pressenti pour se présenter avec les Républicains? Peut-tu arriver quelqu'un à la dernière minute qui pourrait tasser Donald Trump ou les choses sont faites et ça va être lui qui va être là jusqu'à la fin?
Le Parti républicain des États-Unis, c'est-tu qui le principal bailleur de fonds? Donald Trump. Je t'annonce qu'il emmène très, très, très large dans le Parti républicain. Alors, il ne faut pas aller plus loin que ça. S'il arrive quelqu'un, une personne surprise, ben c'est parce qu'on aurait peut-être un décès soudain de Donald Trump. Puis là, Nikki Haley pousserait en avant parce qu'elle ne lâche pas le morceau, là. Elle n'a pas le morceau. Écoute, la Caroline du Sud, c'est elle, elle a dans la tête qu'elle va le gagner. C'est sûr que c'est républicain. Maintenant, c'est de savoir si c'est Trump ou bien Nikki Haley qui va ramasser ça. Elle a quand même fait 2 mandats de gouvernance en Caroline du Sud, donc elle est très populaire. Elle a vraiment des bonnes assises dans ce coin-là. Mais arriver, ça prendrait une fatalité. Là.
Mais vas-tu continuer à challenger Trump sur son âge, entre autres, où elle veut s'assurer d'avoir un poste là, une fois que Trump va gagner?
Moi, je te dirais qu'elle va en avoir un poste parce que Trump, ce qu'il aime, c'est de se faire challenger. Puis c'est pour lui, c'est un signe qu'elle n'a pas froid aux yeux.
Parce que c'est une femme extrêmement brillante, capable de bien s'exprimer. Quand elle parle, c'est tout le monde qui est capable de comprendre ce qu'elle dit. C'est important, une porte-parole comme ça aussi.
Parce que elle, la question, Yannick, ce qu'elle va se poser, est-ce qu'un poste de vice-président pourrait lui ouvrir les portes de la Maison-Blanche, parce qu'on sait que dans 4 ans, si Donald Trump est élu, ben ça va être son dernier mandat. Il n'y a pas le choix, il va falloir le remplacer. Donc, à ce moment-là, est-ce que toute la force qu'il y a derrière la machine Trump, avec la force qu'il a à l'intérieur du Parti républicain, ça pourrait être transféré à Nikki Haley dans 4 ans, si Nikki Haley décide de se joindre à lui? Ça pourrait être une bonne chose. Autre chose, si elle décide vraiment de se retirer puis d'attendre 4 ans et se représenter, bien, elle va construire sa machine. Puis, ça dépend, c'est de quelle façon elle va lever ses forces. Là.
Mais dans l'ombre, majoritairement, ou du moins dans une autre facette que la politique?
Dans l'ombre. Là, ce qu'elle ferait, parce que 4 ans, ça va très vite. Ouais. Aussitôt que le président est élu, tu commences déjà à construire pour ta prochaine élection, parce qu'oubliez jamais, ça prend pratiquement 1 an et demi avant l'élection présidentielle pour commencer à monter tes acquis, monter ta campagne et tout, vraiment mettre ça en branle, monter tes bureaux dans chaque État, commencer à faire ton bouche-à-oreille, ton porte-à-porte, tes activités de cuisine, ça se fait partout, ça, là. Ça prend facilement un bon 18 mois avant que ça commence avant l'élection.
Louis Gauthier, on te souhaite de passer une super de belle journée, puis on a hâte de te voir à Québec, mon ami.
Bien, je devrais être à Québec, si ce n'est pas la semaine prochaine, ça va être dans le début de l'autre, mais ça s'en vient, là, j'ai beaucoup d'ouvrages à faire ici. Mais j'ai bien hâte d'aller vous voir en studio.
Ben oui.
Yes!
Hey, as-tu remarqué? Pascal, elle est rendue qu'elle ne mange même plus pendant mes chroniques.
Elle mangeait avant.
Elle mangeait avant.
T'as réussi à avoir son respect.
Franchement! Oui,
avec la patience. La patience, on réussit à toujours avoir quelque chose.
Mais si ça peut t'aider, moi, je mange toujours d'en face.
Oui,
Ouais. Mais pose-toi pas la question.
C'est ça.
Il faut quelque chose de plus intéressant à faire.
Faut que je travaille encore plus pour avoir son respect. Salut, Louis!
Salut, Louis!
J'étais content de t'agacer encore, Yannick, je m'ennuyais de toi.
Salut, mon ami!
Salut.
Bye bye.
Salut.
Louis Gauthier en direct de Winnipeg, chroniqueur international qu'on aime beaucoup. Vous avez des choses à nous dire? On fait une petite pause. 418-971-1021. 418-971-1021. Toi, circulation, tu surveilles tout ça?
Je check ça là.
Ça a l'air de quoi?
Ça a l'air que ça va...
Rue Royale à Beauport.
Ça va super.
Exactement la
seule chose que j'ai à vous mentionner, c'est sur la 20 en direction ouest à la hauteur du chemin des îles. Il y a un bon ralentissement de ce côté-là. Si vous avez plus d'informations, 418-971-1021. Je fais un petit refresh sur Québec 511. Et ça s'est terminé dans les dernières secondes aussi. Il y avait un incident du côté de Félix Leclerc en direction ouest à la hauteur de Robert Bourassa, la voie droite qui était bloquée, mais ça, c'est réglé. Mais du côté de l'avant, j'ai pas d'informations encore. Si vous savez c'est quoi qui se passe, 88-97.
Savez-vous quoi? Moi, je pense qu'avec le soleil qu'on a à l'extérieur, là, qui est réfléchi sur la neige, il doit y avoir des secteurs là, où on voit pas grand-chose.
Non, matin, chez nous, j'ai trouvé ça raide.
Oui, c'est ça.
Ouais,
il faut des verres polarisés et encore.
J'ai les yeux clairs, là, ce qui fait en sorte que quand il y a de la neige, il y a du soleil, puis tout ça, c'est raide. C'est un petit peu raide le matin.
Ça cause des fois des ralentissements, ça, le soleil.
Oui, bien souvent, quand tu jases avec des policiers, on a tendance à penser qu'il y a plus d'accidents parce qu'il y a des intempéries.
Ouais.
Puis ce que les policiers disent, c'est non, les accidents arrivent quand, ça fait, quand
il fait beau.
Les gens se méfient un peu moins. C'est weird, hein?
Tu vois rien.
Midi 52, on vient.
Marceau le midi.